Bonsoir. L'ancien président tchadien Hissène Habré a été condamné lundi dernier à la prison à vie par le tribunal spécial africain de Dakar. Cette juridiction africaine extraordinaire l'a reconnu coupable des crimes contre l'humanité, de torture et des viols lors de la répression menée lorsqu'il était à la tête de son pays entre 1982 et 1990. Dans un communiqué publié mercredi dernier, la Banque centrale du Congo annonce que la BIAC est mise sous gestion d'une administration provisoire pour une durée de 180 jours. Celle-ci a pour mission d'assurer la gestion courante de cette banque et de préparer son plan de redressement. Tels sont les thèmes de ce soir dans Féline de la Presse. Nous avons autour de cette table José Boto, il est journaliste indépendant évoluant à Kinshasa. Bonsoir, monsieur José Boto.
Bonsoir, Guy Maté.
Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir, RTGA. Bonsoir, monsieur Jean-Pierre Kayembe.
Bonsoir, Guy Maté. Bonsoir à tous.
Et Solange Lusiku Nsimire, éditrice du journal Les Souverains, paraissant à Bukavu Sud-Kivu, et deuxième vice-présidente nationale de l'UNPC. Bonsoir, madame Solange Lusiku Nsimire.
Bonsoir, cher Guy Maté.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'aborder le débat de ce soir, Alain Rung revient sur les sujets qui ont défrayé la chronique cette semaine. On l'écoute dans cette revue de presse qu'il nous propose.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par le verdict du procès Hissène Habré. RFI.fr écrit « Hissène Habré, pourquoi son procès est historique ?» Au Sénégal, le tribunal spécial africain de Dakar a tranché. Après 10 mois de procès, l'ancien président du Tchad Hissène Habré a été condamné lundi 30 mai à la réclusion criminelle à perpétuité par une juridiction africaine extraordinaire qu'il a reconnue coupable de crimes contre l'humanité, de torture et de viol lors de la répression menée lorsqu'il était à la tête de son pays entre 82 et 90. Hissène Habré a été rattrapé par son passé. Le procès qui s'est déroulé sur le continent africain et non devant la Cour pénale internationale CPI aura certainement valeur de modèle pour le continent et même pour la justice internationale. Sous un autre chapitre, Forum des As signe à sa une. Après la rumeur de mars dernier, Abbé Malumalu mort confirmé aux États-Unis. Déjà annonce le confrère, l'évêque de Beni Boutembo, Mgr Melchisedek Sikouli, est arrivé à Kinshasa pour un projet de programme des obsèques. L'abbé Apollinaire Malumalu Muholongu a exhalé son dernier soupir depuis mardi dernier dans un hôpital d'Atlanta aux États-Unis. La nouvelle livrée en début d'après-midi le même jour à la presse par l'ambassadeur de la RDC aux États-Unis, François Baloumouéné, a été confirmée par un proche parent du défunt, joint au téléphone dans la soirée par Forum des As. La prospérité titre Malumalu Baloumouéné confirme la mort. Cela fait des jours, voire des mois, que l'ancien président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malumalu, était donné pour mort. Plusieurs fois démenti, la nouvelle de sa mort semble cette fois-ci se confirmer. Contrairement aux bruits qui ont abondamment inondé les médias électroniques et audiovisuels tout au long de la journée du 1er juin, l'abbé Malumalu serait toujours en vie mais se trouverait dans un coma prolongé car son cœur continuerait à fonctionner encore, écrit le Phare. Le dialogue reste encore d'actualité. Edem Kodjo convoqué à Addis Abeba. Opposition, Steve Mikai crie victoire. C'est la manchette du quotidien La Prospérité. La Consoeur rapporte que le porte-parole de la NCPS et président du Parti travailliste interprète le voyage du facilitateur Edem Kodjo à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, comme une victoire personnelle importante. Sous le même rapport, le journal Congo Nouveau titre « Dialogue Kodjo » rappelé à l'Union africaine pour consultation. Par ailleurs, Forum des As signale la rencontre UDPS opposition anti-dialogue à Bruxelles. Et pour le journal Congo Nouveau à Bruxelles, Tshisekedi joue son dernier combat politique. Pendant ce temps, pour clore, on peut aussi lire dans le quotidien Forum des As, Matata Ponyo encourage les entrepreneurs français à investir en RDC à l'occasion de la 3e édition de la Semaine française démarrée à l'Institut français de Kinshasa ou enfin Chebe Abazana lance d'une justice inachevée.
Merci Alain Irung, José Boto, un petit commentaire par rapport à cette actualité. Vous êtes journaliste indépendant évoluant à Kinshasa. L'actualité c'est aussi le 6e anniversaire le 1er juin dernier de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana.
Oui, Guy, merci de la parole et merci de l'invitation aussi. Je me dis que par rapport à l'actualité concernant l'anniversaire de l'assassinat de Chebeya, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore à éclaircir. Parce que jusque-là, à en croire les défenseurs des droits de l'homme, entre autres d'Olivier que j'ai suivi, le directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix actuellement, et ils ne sont pas satisfaits du verdict rendu par la justice congolaise. Et j'ai même suivi aussi la veuve de M. Chebeya, qui est au Canada actuellement. Et elle a dit que maintenant, ils doivent se tourner vers le tribunal de Dakar pour éventuellement être satisfaits du jugement qui sera rendu. Donc, ça laisse toujours un goût amer hein, dans la bouche, parce que ça a assassiné un défenseur des droits de l'homme. Pourquoi ?
Merci voilà. Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA. Vous avez suivi José Boto qui rappelle que les ONG de défense des droits de l'homme ainsi que la famille de Chebeya ne cessent de demander que la vérité soit établie sur cette affaire et que les véritables assassins soient jugés.
Bon, écoutez, moi je crois que la justice congolaise s'est acquittée de sa tâche en ce qui concerne cette troublante affaire chez Béa. Ça fait 6 ans que le militant droit de l'homiste a été trouvé mort. La justice congolaise a mené des enquêtes. Des présumés coupables ont été rattrapés et condamnés, hormis ceux qui sont en cavale. Donc, dire aujourd'hui qu'il faudrait que les juges dakarois se saisissent du dossier, c'est vrai, le dossier est déjà au niveau de Dakar. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faut faire confiance à notre justice. La réaction de la Voix des Sans-Voix ne me surprend pas quand on sait à quel point ces ONG qui prétendent défendre les droits de l'homme n'ont aucun respect ou encore aucune considération pour notre justice. Ils ont toujours pensé que toutes les décisions prises, tous les arrêts rendus par notre justice vont en défaveur de ceux qui sont censés se retrouver dans leurs droits. Et donc, ça ne me surprend pas, mais je sais que Floribert Chebeya a été une personnalité importante dans ce pays. Nous devons continuer à honorer sa mémoire et ce 6e anniversaire devrait être un moment de réflexion et d'évaluation de ce qu'a été son combat et de voir dans quelle mesure comment le pérenniser que de s'acharner sur des querelles qui ne produisent rien.
Merci Madame Solange Louchikoun-Simire, éditrice du journal Les Souverains, paraissant à Bukavu Sud-Kivu et désormais vice-présidente nationale de l'UNPC. Et comment vous réagissez aux propos des uns et des autres que José Boto venait de rappeler, n'est-ce pas, ce qu'a toujours été la réclamation de la famille biologique de Chebeya ainsi que de ses amis des ONG de défense des droits de l'homme qui ont toujours réclamé qu'un véritable procès soit organisé et que les véritables coupables soient arrêtés et punis. Et Jean-Pierre Kayembe qui lui estime que le travail a déjà été fait par la justice congolaise et que la justice a été rendue, donc il ne voit pas pourquoi on réclamerait un autre procès.
Merci beaucoup Guy. La première chose, c'est peut-être un constat malheureux pour moi en tant que journaliste, parce que nous sommes souvent assimilés aussi aux défenseurs des droits de l'homme. C'est pour moi vraiment un regret et une surprise d'entendre un journaliste de la carrière de KND qui croit en la justice congolaise, parce que ce qui se passe au pays, tous les procès qu'il y a eu, tous les problèmes que nous avons au Congo, tout le monde connaît la couleur de la justice congolaise. Et ça m'étonne vraiment d'entendre un journaliste parler sur ce ton. Par ailleurs, je soutiens José Boto qui a parlé de la famille Chebeya, son épouse, la Voix des Sans-Voix, qui continue d'espérer qu'il y aura une issue favorable un jour et que la justice sera rendue. Je suis de son avis et je pense que l'affaire Chebeya jusqu'aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et donc, en tant que journaliste de Bukavu, surtout que Chebeya était un fils de Bukavu, un garçon d'Ek, je ne peux que soutenir ce qu'a dit José Boto.
Madame.
Et féliciter, encourager même la famille Chebeya à poursuivre jusqu'au Sénégal.
Chebeya n'était pas seul, il était accompagné de son chauffeur, M. Fidel Bazana, dont les corps n'ont toujours pas été retrouvés. Et la famille continue, n'est-ce pas, à réclamer ces corps-là pour lui permettre d'organiser son deuil.
Oui, bien sûr, son chauffeur Bazana, avec Chebea, c'est des vies humaines qu'il faut respecter, tout comme la vie de chacun de nous compte, la vie de ces deux-là aussi avait compté, et donc permettre à leur famille de, d'avoir les corps et de les enterrer en tout respect et peut-être dans la manière dont ces familles-là aimeraient bien le faire, serait un droit le plus légitime.
Merci.
Pas seulement les familles, mais tous les défenseurs des droits de l'homme, et je pense qu'ils ne diraient pas le contraire.
Merci, José Boto. L'autre actualité, c'est la nouvelle du décès de l'abbé Apollinaire Malumalu, et qui a aussi défrayé, n'est-ce pas, la chronique cette semaine. Et à votre avis, comment la presse devrait exploiter une telle information qui fait état de la mort d'une grande personnalité que l'abbé Apollinaire Malumalu, mais malheureusement, l'information est confirmée par les uns et infirmée par d'autres personnes.
Mais c'est, vous savez, hein, le problème, enfin, c'est le dossier du décès du présumé décès de M. l'abbé Malumalu. Je ne sais pas comment on peut le traiter, Guy, parce que c'est très embarrassant. Imaginez, moi j'ai écouté l'ambassadeur François Balumwene, l'ambassadeur du Congo aux États-Unis d'Amérique, qui parlait du décès de Malumalu. Je l'ai suivi.
Qui est représentant du mouvement congolais
aux États-Unis. Et Malumalu, il est à Atlanta aux États-Unis.
Et qui précise qu'il a même reçu des instructions pour
je vous dis, pour le rapatriement du corps, Guy. Alors, vous avez un élément comme ça. Jean-Pierre Crembe, qui gère un média, qui est responsable d'une rédaction ou d'un truc comme ça. Alors, dites-moi un peu, mon frère, vous avez un truc comme ça et vous avez la source, l'ambassadeur de la RDC aux États-Unis.
C'est fiable.
C'est fiable. Je sais pas, la fiabilité de la source, ça peut pas aller au-delà de ça. Je suis désolé. Et alors, imaginez un truc comme ça. Comment vous allez traiter l'info? Donc, tout le monde a été mené en bateau.
Jean-Pierre Crembe, l'ambassadeur de la RDC aux États-Unis, confirme l'information, n'est-ce pas? Mais le porte-parole du gouvernement congolais, lui, infirme cette information. Il dit que l'abbé Apollinaire n'est pas mort. Comment vous, en tant que journaliste, vous allez traiter une telle information?
Mais écoutez, pourquoi cacherait-on le décès d'une personnalité comme l'ancien président de la commission électorale? Pour quel intérêt? Pourquoi? Et puis,
qui cache cette information?
Non, parce que vous semblez insinuer que l'on cacherait une certaine vérité. Il y a un problème. Défaut des qualités. Est-ce qu'il revenait à l'ambassadeur d'annoncer la mort? Malumalu est un prêtre. Il revient. Si il arrivait qu'il est mort, évidemment, il revient à l'église catholique, à son diocèse, d'annoncer son décès. Il ne revenait pas à l'ambassadeur. Mais les dernières nouvelles à notre possession font état de Malumalu qui serait dans un état critique, dans un profond coma, mais en vie, son cœur bat. Et pour le cœur de quelqu'un qui bat, pourquoi voulez-vous qu'il meure? Et combien de fois l'a-t-on tué?
Merci Madame Solange Lushiku Nsimere. Un mot par rapport à cette nouvelle faisant état du décès de l'abbé Apollinaire Malumalu.
C'est encore une fois une controverse sur la mort de l'abbé Malumalu. Je me rappelle que la première présumée fausse mauvaise nouvelle de sa mort avait déjà circulé à un certain moment et personnellement, j'avais déploré l'attitude de beaucoup de Congolais, beaucoup de nos compatriotes. On a vu piler des photos sur les réseaux sociaux. On a vu vraiment des esprits faibles qui se sont laissés berner par des propos vraiment méchants de certains Congolais. Parce que des gens se sont permis de poster la photo de l'abbé Malumalu sur sa chaise roulante. Ils ont manqué vraiment du respect à la dignité, à la vie des privés de l'abbé Malumalu. Ce que je voudrais quand même tourner ici, c'est dire que tout le monde peut tomber malade, qu'il soit sain, qu'il soit modéré ou pécheur, selon les perceptions des uns et des autres. Mais les gens qui véhiculent des propos mensongers sur les causes de la maladie de tel, les causes de la mort de tel, quel que soit ce qu'on peut reprocher à ces semblables-là, je pense qu'on devrait éviter de festoyer pour la mort de quelqu'un. Et je pense que c'est ça qui crée cette controverse aujourd'hui, parce que peut-être l'ambassadeur, il a bien fait son travail en disant que l'abbé Malumalu serait mort, Et peut-être de l'autre côté, l'Église catholique dit, si on annonce officiellement que l'abbé Manouma est mort, il y aura des gens qui vont festoyer. Alors pour moi, c'est une fausse mauvaise nouvelle, jusqu'à preuve du contraire.
Merci madame.
Parce que je me dis que ça, c'est encore une fois quelque chose qui fait réfléchir lorsqu'il s'agit d'un cas, un problème de quelqu'un qui a travaillé pour le Congo.
Merci madame.
Que soit la couleur du régime pour lequel il a travaillé, quel que soit ce qu'il a fait, moi je pense qu'il est d'abord question de quelqu'un qui est malade, qui serait peut-être mort, qu'il meure, qu'il vive, ce n'est pas à nous de décider, c'est à Dieu qui l'a créé de décider.
Merci. Merci. Nous abordons notre premier thème de ce soir. L'ancien président tchadien Hissène Habré a été condamné lundi dernier à la prison à vie par le tribunal spécial africain de Dakar. Cette juridiction africaine extraordinaire l'a reconnu coupable des crimes contre l'humanité, des tortures et des viols lors de la répression menée lorsqu'il était à la tête de son pays entre 1982 et 1990. Retour sur ce procès avec Berry-François Loutchaka.
25 ans après sa chute, l'ancien président tchadien jugé par le tribunal spécial africain de Dakar a été reconnu coupable des viols, mais également des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ce qui était reconnu hier lundi, c'est la responsabilité de Hissène Habré, président du Tchad de 1982 à 1990, dans ce système qui s'en était pris d'abord aux opposants ou ceux soupçonnés de l'être, puis à plusieurs communautés du sud du pays, accusées de façon indiscriminée de soutenir de rébellions contre son régime. Sans négliger les détails, le juge a fait la description de tout un système lancé dès les semaines qui ont suivi la prise du pouvoir par la force de Hissène Habré en 1982. Le président de la Cour n'a pris en compte aucune circonstance atténuante, notamment l'âge de l'accusé ou le fait qu'il est considéré comme un bon père de famille. La Cour a considéré que les circonstances aggravantes devaient entraîner cette condamnation à la perpétuité. Ce procès de Hissène Habré marquera l'histoire de la justice internationale, à en croire les experts en la matière. C'est la première fois qu'un chef d'État est reconnu personnellement coupable des viols. C'est la première fois aussi qu'un ancien chef d'État africain est jugé en Afrique. Enfin, c'est la première fois au monde que des juridictions d'un pays jugent le chef d'État d'un autre pays pour des crimes contre l'humanité, estime-t-on dans les milieux de l'accusation. C'est le recours à la compétence universelle qui a permis la tenue de ce procès historique. Hissène Habré a donc été jugé au Sénégal alors qu'il est tchadien parce qu'une plainte avait été déposée au Sénégal, le pays où il réside depuis son exil en 1990.
Merci Barry Franklin Loutchaka, José Boto, journaliste indépendant évoluant à Kinshasa. Hissène Habré est condamné à la prison à vie par le tribunal spécial africain de Dakar. Et comment vous réagissez à ces verdicts?
Oui, ce n'est que normal qu'il soit condamné à cette peine-là, Hissène Habré. Il y a des leçons plutôt à tirer de cette condamnation, en fait, Guy Maté. Et la première des leçons à tirer, c'est que notre passé nous rattrape toujours. Peu importe qui l'on est, tout ce que l'on pose comme acte, qu'on sache qu'un jour, on doit répondre de tous ces actes-là. Que ce soit devant l'histoire ou que ce soit devant les choses comme aujourd'hui avec Hissène Habré. Et la deuxième leçon à tirer, c'est que l'Africain est capable de juger l'Africain. Hein, la justice africaine est capable de faire un travail de qualité. On l'a vu avec ce qui s'est passé au Sénégal. Même si les financements, c'est venu d'ailleurs, l'Union africaine aussi a donné un petit quelque chose, mais bon, le gros du financement pour que cette cour spéciale soit instituée est venu plus de l'Union européenne, bon, de l'Europe de façon générale. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que l'Afrique est capable aussi de juger les Africains. Et alors la CPI, tout ce que la CPI fait, bon, avec tout ce que l'on décrit, voilà un exemple qui montre qu'aujourd'hui on peut compter aussi sur la justice africaine. Et le dernier point que je dois souligner, Guy Maté, par rapport à ces dossiers d'Hissène Habré, c'est que ces messieurs-là, c'est un lâche. C'est vraiment un lâche. Parce qu'être gouvernant, gérer un pays, il faut savoir s'assumer aussi, assumer tous ses actes. Il a commis des actes, après il s'assume pas. J'ai trouvé que c'était vraiment un signe de suprême lâcheté. Parce que Hissène Habré est resté muet du début à la fin de ces procès-là. C'est de lâcheté.
Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTG en sigle. Un procès avec beaucoup de rebondissements. D'abord, l'accusé garde le mutisme, comme l'a relevé José Boto. Il garde le mutisme pendant tous les procès. Et ses avocats récusent la cour. Celle-ci désigne des avocats commis d'office pour défendre l'accusé qui refuse toute collaboration avec ses avocats commis d'office. Peut-on parler d'un procès atypique?
Écoutez, il y a eu à boire, à manger, peut-être à vomir dans cette affaire. Je vois aujourd'hui les gens se réjouir que pour une fois, l'Afrique a jugé
ses enfants,
oui, mais l'aîné José l'a dit tout à l'heure. On sait que le financement de ce procès n'est pas venu de l'Afrique, ce qui veut dire qu'il y a eu des impérialistes qui en voulaient à Abré. Mais bon, moi je vois dans le fond du dossier, j'aurais bien voulu voir le président
des impérialistes qui en voulait à Hissène Habré, alors que pendant tout ce règne, il n'a fait que servir ces impérialistes.
Oui, mais ces gens, on connaît leur versatilité. On sait que quand ils n'ont plus rien à gagner de vous, on l'a vu avec Sarkozy, ce qu'il a fait de Kadhafi aujourd'hui, on les regrette. Et donc, moi, je ne voudrais pas saluer une mesure pareille. Mais bon, dans le fond
vous pensez que ces impérialistes avaient intérêt de voir ces procès s'organiser dès lors qu'ils savaient qu'il y avait possibilité, n'est-ce pas, de les déballer dans ce procès?
Bon, mais vous avez vu qu'il a gardé silence. Je ne voudrais pas revenir sur certains éléments ici qui risquent de compromettre cette affaire. Mais ce qui est important, je voudrais revenir sur les fonds. Moi, j'ai vu Idriss Déby recevoir une invitation. À son temps, dans les années 82, Déby était à la tête de l'armée tchadienne. Il a d'une façon ou d'une autre contribué, participé à ces massacres de population dans ce pays, et j'aurais bien voulu qu'il réponde lui aussi. Il a été invité en tant que renseignant, en tant que simple témoin, mais j'aurais voulu qu'il réponde.
Et donc vous êtes d'avis que ces procès, comme le disent certains experts, a laissé un goût d'inachevé, dans le sens que les personnes qui ont évolué dans les systèmes avec Hissène Habré et qui ont d'une façon ou d'une autre étaient impliqués dans ces exactions, ces personnes sont encore vivantes et qu'elles devraient aussi répondre, n'est-ce pas,
des actes. Chacun devrait répondre de ses actes, devait répondre de ses actes dans la mesure où Habré n'a pas été le seul à commettre tous ces crimes. Évidemment qu'il y a eu des gens autour de lui qui l'ont accompagné dans cette entreprise macabre, et donc ils devraient eux aussi répondre, d'autant plus qu'ils sont vivants. Je ne vois pas pourquoi on devrait mettre de côté certains éléments, certaines personnalités, parce que le cas par exemple du président en fonction, parce que il est encore au pouvoir. Donc de mon point de vue, je ne salue, tout comme je n'approuve ce qui a été fait, même si je suis d'accord qu'aujourd'hui il est temps que l'on se dessaisisse de cette cour pénale internationale et que l'Afrique organise ses propres moyens de juger ses ressortissants.
Merci Madame Solange Lufiku Nsimire, éditrice du journal Le Souverain, paraissant avocat pour ceux qui vous désirent, vice-présidente nationale de l'UNPC. Comment vous analysez l'attitude affichée par l'ancien président tchadien Hissène Habré? Il a mis en place une stratégie, celle qui consiste à garder l'émitisme total pendant tous les procès, et José Boto qualifie cela de lâcheté.
Pour moi, je pense qu'on dit qu'il est du mot constant. À partir du moment où Hissène Habré savait qu'il était là, qu'il devait parler et qu'il n'a pas voulu le faire, il acceptait tout ce qui avait été dit contre lui en termes de crimes et d'atrocités qu'il aurait commis. Mais moi, je pense, j'ai retenu trois éléments par rapport à cela. D'abord, le verdict est plus que pédagogique et interpellateur. C'est vraiment une véritable leçon pour les dictateurs et autres dirigeants de la Caraïbe et Hissène Habré. Un verdict que tout le monde peut saluer et qui peut servir de leçon à d'autres dirigeants. Le deuxième élément, c'est que c'est déjà une avancée dans le combat contre l'impunité. Tous les pays africains devraient maintenant s'approprier cette victoire de la justice sur les atrocités et toutes sortes de crimes. Et le troisième élément, vraiment cerise sur le gâteau, c'est un chapeau bas vis-à-vis de Mme Khadija Hassan Zida, la dame qui a eu le courage de briser le silence et la honte pour témoigner du viol qu'elle avait suivi de la part de Hissène Habré. Donc c'est déjà aussi un élément qui encourage les femmes qui militent pour les droits des femmes et tous ceux qui se battent contre les viols. C'est de montrer que même par rapport au viol, même à des instances comme à la cour où Hissène Habré a été condamné, la femme peut se lever et témoigner et avoir gain de cause. Donc, c'est un élément, les trois éléments là que moi je salue par rapport à cela. Mais également, je me rallie au propos de mon prédécesseur qui disait que ce n'est pas seulement Hissène Habré qui a commis ces crimes-là, peut-être aussi les gens de son entourage. On voit aujourd'hui beaucoup de dirigeants africains entourés de vautours et qui peuvent me tromper avec des phrases, avec des pratiques, avec des paroles. Et lorsqu'il s'agit maintenant de condamner la personne, on voit le sommet, c'est la vraie qui est maintenant aujourd'hui condamné. Et on oublie aussi la France qui l'a aidé à façonner sa dictature et à la consolider dans son pays. Moi, je pense que les jours qui viennent, il faudra quand même aussi s'interroger autour de son entourage, mais également autour du rôle de la France durant la période de son règne.
Merci, José Boto. Que répondez-vous à ces personnes qui dénoncent le fait qu'aucune circonstance atténuante n'a été retenue par la Cour, notamment les contextes particuliers dans lesquels Hissène Habré a eu à diriger son pays? C'était le contexte de la guerre froide où les puissances occidentales l'appuyaient et auraient même fermé les yeux sur tous les actes que posait le régime Habré. Et on a aussi parlé, n'est-ce pas, du fait qu'il a un âge très avancé.
Et puis, c'est un père, un bon père de famille.
Bon père de famille.
Non, ben c'est à la limite du ridicule, quoi. Ces gens de. Bah, c'est qu'on peut appeler circonstances atténuantes. Parce que c'est un bon père de famille et qui tue d'autres personnes dehors, donc c'est un bon monsieur. Non, ça n'a pas de sens. On doit être bon père de famille et ailleurs, on doit rayonner de la même manière. Donc, moi je trouve que pour ce qui est des circonstances atténuantes, Hissène Habré n'en avait pas vraiment. Et c'est normal qu'il ait été.
Et les contextes politiques de l'époque
Non, les contextes, ça n'exclut pas qu'on respecte les droits de l'homme, mon frère. Hein, Guy? C'est pas parce qu'on est dans un contexte dictatorial qu'on peut tuer les gens comme on veut, qu'on peut égorger les gens comme des poulets, qu'on brime les gens. Non, non, c'est pas ça.
Alors,
c'est
pas parce qu'on accuse certaines puissances comme la France et les États-Unis d'avoir, à certains points de vue, cautionné, n'est-ce pas, les exactions commises par Hissène Habré. Bon. Vous ne pensez pas qu'il fallait aussi demander des comptes à ces grandes puissances?
Non, mais Guy, d'avoir fermé les yeux, d'avoir peut-être fermé les yeux.
Pas cautionné.
Mais pas d'avoir. Non, d'avoir fermé les yeux. Mais je ne pense pas que les Français soient venus pour lui dire, monsieur, il faut égorger les gens, il faut tuer les gens. Non, vous savez, hein, il faut éviter de se dédouaner aussi facilement que ça. Quand on commet des actes pareils, on doit s'assumer.
Et monsieur
Habré, non, mais c'est vrai qu'on était jeunes à l'époque, je me rappelle, on était jeunes, mais Hissène Habré, ce n'était pas un modèle. Je suis désolé, ce n'est pas un modèle. Hein. C'est vraiment pas un modèle en termes de gestion du pays.
Et avis, pourquoi on n'a pas relevé ce genre d'aspect? C'est-à-dire qu'il a évolué dans un contexte particulier.
Oui. C'est vrai que le procès d'Hissène Habré.
Pourquoi on n'a pas interpellé ses puissances?
Guy, le fait que, d'abord, dès le départ, Hissène Habré ait récusé, à travers ses avocats, ait récusé cette cour-là, ses avocats n'aient pas siégé, et c'est des choses qui font qu'il y a une page entière, des pages et des pages entières de la vérité qui n'ont pas été épluchées, quoi. C'est justement ça le problème. Et peut-être il a fait à dessein, je sais pas, peut-être il a fait à dessein, mais le fait, Guy, le fait que ses vrais avocats, les avocats qu'il lui-même a, n'aient pas siégé, n'aient pas presté lors de ces procès-là, peut expliquer qu'il y ait des vérités qu'on ne saura peut-être jamais.
Merci Jean-Pierre Kayembe. Vous avez suivi Mme Solange Simiré, le Chikou qui a retenu, n'est-ce pas, trois faits. D'abord, que ces procès étaient une véritable leçon pour d'autres dirigeants africains, et aussi un combat contre l'impunité. Et elle a salué, n'est-ce pas, le courage de la dame qui a témoigné, n'est-ce pas, sur les cas des viols dont elle était l'objet. Votre réaction par rapport à ça?
Oui, écoutez, procès historique et pédagogique, l'affaire après le restera. C'est une leçon administrée aux autres dirigeants africains. Aujourd'hui, faut pas.
Et vous pensez que ça pourrait avoir un impact sur les comportements, n'est-ce pas, de ces dirigeants?
Non, depuis l'avènement de la Cour pénale internationale, certains dirigeants ont revu leur façon de faire les choses. Aujourd'hui, on peut se permettre de faire un certain nombre de choses en sachant qu'on a l'aide des enquêteurs sur vous. Donc, on ne peut plus se permettre un certain nombre de choses. Mais c'est qui est vrai que dans l'affaire Habré, le fait que lui-même n'ait pas coopéré avec cette chambre spéciale n'a pas totalement facilité l'éclatement de la vérité, parce que il avait aussi une partie, une version des faits qu'il aurait pu donner. Il n'a pas voulu coopérer, donc il va mourir avec la vérité en lui.
Vous ne pensez pas qu'il y a un risque que 2 ou 3 ans après, que les personnes qui se sont senties lésées par ces verdicts puissent faire table rasa sur les passés et ne pas reconnaître ce qui a été pris comme décision et réclamer un nouveau procès et cette fois-là et demander à Hissène Habré de pouvoir coopérer.
Évidemment qu'il pourra voir très prochainement s'il y a une possibilité d'aller en appel ou de trouver une autre procédure. Mais ici, je note que quand la Belgique et les autres partenaires européens ont financé ce procès, l'idée était à tout prix que le verdict qui sort soit exemplaire, donc sans appel. Donc c'est ce qu'ils ont voulu. Ils ont vu que les Africains commençaient à rejeter leur cour pénale internationale et un instrument à leur service. Ils ont boutiqué cette cour spéciale pour condamner Habré. Donc, ça se comprend.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, dans un communiqué publié mercredi dernier, la Banque centrale du Congo annonce que la BIAC est mise sous gestion d'une administration provisoire pour une durée de 180 jours. Celle-ci a pour mission d'assurer la gestion courante de cette banque et de préparer son plan de redressement. Dans ce communiqué signé par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, un comité d'administration provisoire est mis en place et il a 6 mois pour redresser la BIAC. Objectif, aboutir à l'ouverture du capital de la BIAC à d'autres preneurs. Selon le directeur des opérations de la Banque centrale du Congo, les épargnants de la BIAC n'ont rien à craindre car ces difficultés seront bientôt résolues. Jean-Louis Kayembe a été joint par Nadine Foulan Simba.
La direction de la banque, les conseils sont donc mis en veilleuse. Et c'est le comité d'administration qui va gérer la banque.
Donc on peut dire que le premier comité n'a pas réussi à redresser cette banque dont les difficultés continuent.
Tout à fait. Disons, parce que dès le départ, il y a eu des missions qui ont été diligentées au sein de la banque. Au terme de ces missions, il y a eu des rapports qui ont été faits, qui ont donné lieu à un plan de redressement sous l'administration provisoire.
Pourquoi la banque centrale ne va pas demander l'ouverture de capital de la BIAC à d'autres banques?
C'est ça en fait l'aboutissement du processus. C'est que lorsque la banque était gérée par cette direction qui a été mise en place par les actionnaires, donc la banque centrale n'avait pas le droit au regard des dispositions actuelles de demander à d'autres actionnaires d'entrer dans le capital. Maintenant qu'on a suspendu le conseil d'administration ainsi que la direction de la banque, c'est l'ouverture de capital qui est en perspective et que d'autres actionnaires puissent entrer dans le capital, apporter de l'argent pour conforter la situation financière de manière à ce problème de solvabilité, notamment des dettes, seront résolus immédiatement.
Madame Solange Lushikun Simire, éditrice du journal Le Souverain, paraissant à Bukavu Sud Kivu et deuxième vice-présidente nationale de l'UNPC, la BIAC est mise sous gestion de la Banque centrale du Congo. Comment vous analysez cette décision?
Bon, je ne saurais pas vraiment analyser cette décision, mais moi je me dis que les 300 000 clients de la BIAC doivent être protégés par le gouvernement. Et le gouvernement, quant à lui, devrait vraiment rembourser les créances de la BIAC. On a parlé de 30 millions, c'est déjà beaucoup. Mais comme ce n'est pas toutes les informations relatives à la situation de la BIAC, j'aimerais, si vous me le permettez, parler ici aussi d'une situation similaire ici au sud Kivu avec la Côte Kimara au sud et au nord Kivu.
Je vous en prie, madame.
Une coopérative qui doit 12 millions de dollars à 9 000 personnes. On a vu ces gens-là devant la Banque centrale de Bukavu dans un sit-in qui a presque duré une semaine, mais ils n'ont pas été écoutés. Au contraire, on a vu un déploiement musclé de la police qui est arrivé là-bas pour les disperser. Et voilà qui n'ont pas eu gain de cause, ils n'ont même pas eu une petite promesse comme les clients de la BIAC. Et ça, je me dis que c'est de plus en plus des questions sur lesquelles le gouvernement congolais devait se pencher pour remettre chaque fois les victimes dans leurs droits.
Joseph Boto, journaliste indépendant évoluant à Kinshasa, ce comité sera-t-il en mesure d'accomplir sa mission d'ici 3 à 6 mois, alors qu'il est placé dans un environnement difficile et il y a la quasi-méfiance, n'est-ce pas, de la part des clients de la BIAC, et surtout dans les conditions où les prêts de 30 millions garantis par le gouvernement n'est pas toujours remboursé?
Ouais, c'est vrai que c'est un défi qu'on leur a lancé, et puis moi j'ai... Je ne suis pas sûr que les choses pourraient aller comme... Enfin, je ne suis pas si optimiste que ça, hein, que la Banque centrale, par exemple, comme l'a dit, parce que les problèmes des fonds, c'est un problème de gestion. Ça, je l'ai dit au début de cette affaire, j'ai été reçu ici, dans l'une des éditions de votre émission Tribune de la Presse. Je l'ai dit au départ, je l'ai dit que le problème, c'est un problème de gestion. Et est-ce que, de façon générale, est-ce que le cas de la BIAC, là, est-ce que c'est peut-être pas l'arbre qui cache la forêt? C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que notre système bancaire, c'est un système bancaire correct? Parce qu'il y a plein de choses qui se font dans nos banques ici. Et ça ne se dit pas. Ça a commencé. La BIAC, c'est pas. Si vous suivez bien l'actualité, Guy, vous remarquerez que il n'y a pas une banque qui a été braquée comme la BIAC. Hein, je ne sais pas, mais en ce temps, quoi, il y a toujours un nom, on a braqué une banque, on a pris l'argent. Et généralement, c'était la BIAC à l'époque. Et ce n'était pas gratuit. Vous comprenez? Donc, c'est un processus, c'est un truc qui a commencé il y a longtemps. Et moi, je me dis, les problèmes des fonds, c'est peut-être qu'il faut que les autorités essayent de voir un peu si on ne peut pas se permettre aujourd'hui de penser déjà à l'assainissement du système bancaire congolais.
Et donc, vous êtes d'avis que la Banque centrale du Congo a réagi en retard? Parce qu'il y a des experts qui disent que c'est depuis 2012 que les dysfonctionnements au sein de la BIAC étaient constatés.
Guy, moi je suis un simple journaliste, je ne suis pas journaliste économique, mais je suis l'actualité. Et je sais qu'à l'Assemblée nationale, on l'a dit. On a même condamné le gouverneur de la Banque centrale. Condamné entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris la mesure de la chose dès le départ. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Vous comprenez, Guy? Donc, je pense que le problème de la BIAC, on peut faire ce qu'on veut. Là, c'est vrai que ça, il faut qu'on se le dise, il ne faut pas qu'on mette les gants pour les dire. La BIAC est en faillite. Il faut absolument relever cette banque-là. Et l'un des responsables, c'est aussi l'État congolais, avec les 30 millions de prêts qu'il a garantis et qui jusqu'à aujourd'hui ne s'est pas remboursé.
Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA, le directeur des opérations de la Banque centrale du Congo, affirme que les épargnants de la BIAC n'ont rien à craindre car leurs difficultés seront bientôt résolues. Vous pensez que les assurances du directeur général de la Banque centrale du Congo suffisent-elles pour tranquilliser les particuliers qui ont placé leurs épargnes dans cette banque, la BIAC? Vous avez suivi Mme Solange Luchikou qui a plaidé, n'est-ce pas, pour que l'on puisse protéger les intérêts des épargnants. Et il a même évoqué les cas de la COPEC Imara à Bukavu, dont les clients sont toujours aujourd'hui sans suite. Ils n'ont jamais été remboursés.
Oui, je connais très bien l'affaire de la COPEC Imara. Il n'y a pas que à Bukavu, aussi au Nord Kivu. D'ailleurs, l'ancien comité de gestion avait été limogé. On l'a remplacé par un autre qui peine à relever cette coopérative. Bon, pour revenir à l'affaire BIAC, je dois dire que le gouvernement a toujours un air regardant. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que la BIAC est sous un plan de redressement de la BCC depuis bientôt de 3 ans. La situation a atteint des proportions, on va dire, on ne peut plus exponentielles, qu'il fallait des mesures beaucoup plus urgentes. Dans le contexte qui est sous examen, je ne voyais pas le tout récent comité de gestion qui avait été mis à la tête de cette banque faire quelque chose. Parce que vous savez, Guy, il y a quelque chose en matière bancaire, la banque n'a pas mieux que la confiance. Quand on perd la confiance des abonnés, on perd la confiance de la clientèle, c'est très grave. Parce qu'on a constaté que ces 2 derniers mois, tout le monde qui allait à la banque allait juste pour déloger ses avoirs. Et quand la banque ne fait que des sorties et pas d'entrée, et donc sa faillite n'est pas très loin.
Alors moi, je crois qu'il y a intérêt. Vous ne pensez pas que cette situation a été entretenue et parce qu'il fallait, n'est-ce pas, éviter que l'on puisse arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui le déficit de confiance de la part des clients, il fallait agir en amont. C'est-à-dire déjà dès 2012, quand on a constaté
oui, évidemment que
on devait, soit le gouvernement, soit la Banque centrale, devait réagir.
Le Parlement a reconnu de faille que le gouvernement devait prendre des propositions, des mesures urgentes pour sauver ce qui pouvait l'être encore. Évidemment, rembourser ces prêts de 30 millions de francs, de dollars qui n'a pas encore été fait. Mais aujourd'hui, que la Banque centrale prend elle-même les choses en main, je crois que ce qu'il faut faire, c'est rassurer les épargnants. Ils sont évalués à 300 000. Et puis vous avez les travailleurs de la BIAC. Aujourd'hui, si la BIAC tombe, qu'ils vous souviennent que la BIAC, c'est parmi les banques les plus proches des épargnants le plus petit. Donc les gens risquent encore de perdre totalement la confiance en nos banques. Et c'est très très important, très très désagréable pour l'évolution de l'économie.
Et vous pensez que la thérapie proposée par la Banque centrale, elle est efficace?
Je crois qu'ils ont intérêt. Ils ont intérêt à mieux faire et ne pas perdre la crédibilité de la clientèle. Donc, ils n'ont pas droit à l'erreur.
Madame Solange Lusikou, l'Assemblée nationale a récemment recommandé au gouvernement congolais de pouvoir rembourser 30 millions de dollars américains à la BIAC, un prêt pour lequel ils s'étaient portés garants. Vous pensez que les députés nationaux seront entendus?
Bon, je pense que les députés nationaux devraient être entendus parce que, comme vient de le dire mon prédécesseur, parmi les 30 millions de clients de la BIAC, il y a des tout petits. Donc, cela veut dire que si le gouvernement ne répond pas...
On parle beaucoup plus des 300 000 clients de la BIAC.
Pardon, ce sera vraiment de la désolation. Si le gouvernement n'étant pas une oreille attentive à la demande de l'Assemblée nationale, ce sera une désolation, étant donné que parmi ces clients-là, il y a des petits. Et je pense que la recommandation de l'Assemblée nationale, même si le gouvernement peut-être dans un premier temps peut avoir des difficultés à lui répondre totalement, le gouvernement pouvait peut-être faire un geste pour permettre à ces clients de la GAC de souffler un peu en attendant une solution plus ou moins consistante.
Jésus Boto, ça sera aussi votre conclusion. Que faut-il pour prévenir ces genres de situations? Parce qu'il y a des experts qui disent aujourd'hui qu'il n'y a pas que la BIAC. Il y a beaucoup de banques commerciales qui connaissent la même situation que la BIAC. Et là, la Banque centrale ne réagit pas. Que faut-il pour prévenir ces genres de situations?
Je le répète encore, le cas de la BIAC, c'est un peu comme on dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut absolument qu'il y ait une sorte d'état des lieux, que la Banque centrale, qui est l'organe qui gère... toutes les banques, que la Banque centrale fasse, avec le gouvernement, qui fasse un état des lieux de ce qu'on a comme banque ici. Voilà Guy, c'est l'idéal, sinon on va avoir des problèmes, enfin d'autres banques tomberont dans la même, pardonnez-moi le terme, dans la même bêtise que ce qui est arrivé à la BIAC.
Jean-Pierre Kaimbé, un état des lieux de toutes les banques serait l'une des solutions?
Oui, un état des lieux, mais être aussi beaucoup plus regardant. Beaucoup plus regardant et ne pas laisser la situation pourrir pour en arriver aujourd'hui à la situation de la BIAC où vous avez les fonctionnaires d'un côté qui se plaignent, les salariés de l'autre qui font des sit-in, les étudiants, moi-même, j'ai un dossier là-bas, un compte qui est bloqué et donc je ne sais pas retirer mon argent. Donc vous comprenez à quel point ça fait exaspérer les gens. Donc il y a nécessité que la Banque centrale, le gouvernement... veille pour que pareille situation ne se répète pas.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Claude Nsela qui était à la technique, Alain Hirung qui a coordonné et réalisé cette émission sous la supervision de Pelle Kipe Lamondo, à la présentation Guy Maté. Merci, à la semaine prochaine pour un autre débat et bon week-end sur Radio Okapi.